ce mois-ci, alors comment... Pardon, j'avais le son un peu fort dans les oreilles. Donc, votre émission mensuelle d'actualité critique sous un angle plutôt anticapitaliste qui vous présente le travail de journaliste indépendant. Donc, on met plutôt le projecteur sur le journalisme indépendant plutôt que sur les médias appartenant à des milliardaires, les médias privés sous influence de certains pouvoirs. Donc ce mois-ci, comment ne pas parler de ce qu'il se passe au Venezuela ? Alors que le mot impérialisme sort des cercles militants et surgit dans le débat public, pendant que nos dirigeants européens s'agenouillent plus misérablement que jamais devant l'affront commis par l'armée états-unienne contre le Venezuela, on va remonter le temps et effleurer du doigt la complexité du problème. On va se demander premièrement qu'est-ce qui intéresse tant les États-Unis au Venezuela ? Vous avez une petite idée, j'en suis sûr, mais on va approfondir. On va reprendre la chronologie depuis 1989, l'année où eurent lieu d'énormes manifestations en réaction à l'augmentation de la misère dans le pays, manifestations qui furent réprimées dans le sang. On va enfin se demander quel est ce modèle économique et politique vénézuélien qui révulse tant les États-Unis depuis son apparition à la fin du siècle dernier. Que s'est-il passé donc le 3 janvier, une incursion militaire Yankee, donc moi je dis Yankee, c'est les États-Unis, hein, pour pas dire Américains, parce que les Américains c'est aussi les Argentins, les Colombiens et compagnie. Donc une incursion militaire a eu lieu sur Caracas, visant au kidnapping de Nicolas Maduro, président du Venezuela, qui a été élu au suffrage universel en 2013 maintenant. Accompagné de plusieurs bombardements, l'attaque a causé la mort d'environ 80 personnes, dont des militaires cubains venus protéger Maduro depuis les menaces de Trump. C'est donc la mort de plusieurs dizaines de Latino-Américains défendant un pays envahi, que ce dernier contemplait, selon ses propres mots, comme une série télé. Et oui, c'est ce qu'il a dit Donald Trump. On a tous vu ces images d'hélicoptères états-uniens survolant tranquillement Caracas comme en pays conquis et celles de Maduro menottées et les yeux bandés à la merci de la police états-unienne pour comparaître devant la justice d'un pays étranger. Donc pour plus de détails, il y a une vidéo de la chaîne Limite. C'est une chaîne YouTube qui parle beaucoup de transition écologique, mais d'une façon très approfondie, assez critique du capitalisme aussi. Et donc il y a une vidéo qui détaille l'enlèvement de Maduro et qui fait un petit peu des théories sur qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant sur les dessous de cette opération. Donc vous tapez Venezuela, limite, il y a deux vidéos qui en parlent. Cette opération, elle a beaucoup choqué, certes, mais est-ce qu'elle a suffisamment choqué ? Plus que jamais, à travers cette émission, je me suis senti le devoir de mettre en avant le travail des journalistes indépendants. On va donc pas s'attarder sur la servilité des éditorialistes spécialistes de tout et de rien, surtout de rien, qui recrachent et colportent les mensonges sur le Venezuela et qui répètent à peu près directement ce que dit Trump, ainsi que sur tout gouvernement s'opposant frontalement à la prédation nord-américaine. Je parle pas bien sûr de tous les médias, hein. Il y a des choses intéressantes, il y a le mot impérialisme qui sort des cercles militants et qui surgit dans le débat public, mais il y a quand même tout un tas de médias français qui sont qui ont l'air d'être vraiment impressionnés, positivement impressionnés par cette attaque, par cette agression. Donc, il y a un journaliste français, par contre, qui se démarque ces temps-ci, enfin, si on épluche les médias indépendants, hein, parce que c'est pas très bruyant non plus, c'est Maurice Lemoine. C'est un ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique. Vous savez que le Monde Diplomatique, c'est un peu ma Bible. C'est un spécialiste de l'Amérique latine et du Venezuela notamment. Il reprend les choses depuis le début en commençant par le lexique utilisé. Donc d'après lui, Nicolas Maduro n'a pas été capturé, mais enlevé. Le mot de capture, c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans nos médias. Ça paraît innocent. Mais ça ne l'est pas, en fait. C'est un kidnapping, une capture. Quand on parle d'une capture, on parle d'un criminel. Voilà. Alors là, évidemment, il est présenté comme narcotrafiquant. Mais on va voir que c'est très, très peu crédible, hein, ces accusations de narcotrafic. Donc d'autres éléments de vocabulaire. On parle souvent de régime pour qualifier le gouvernement vénézuélien. C'est le mot utilisé quand on parle de pays en général qui résistent au néolibéralisme mondialisé. Mais Maurice Lemoine nous rappelle qu'il s'agit bien d'un gouvernement avec un président élu au suffrage universel direct. Le fait que l'extrême droite pro-américaine ait boycotté les dernières élections ne suffit pas à faire de Maduro un président illégitime, même si en effet sa majorité a été faible quand il a été élu. Donc également, dans le meilleur des cas, quand il s'agit des navires vénézuéliens bombardés ces dernières semaines, ces derniers mois, on parle d'opérations militaires. Les plus audacieux dans les médias privés se risquent au terme de piraterie. Mais en réalité, ce sont des assassinats de civils, notamment de civils, hors de toute réglementation internationale, dans le cadre d'une opération coloniale, pour reprendre les mots de Maurice Lemoine. Je rappelle que voilà, lors de ces attaques, de la saisie de certains navires, c'est les États-Unis qui se sont tout simplement appropriés gratuitement des bateaux remplis de pétrole. Voilà. Donc, opération coloniale, pourquoi ? Une puissance étrangère vient décider quel doit être le dirigeant politique à la tête du Venezuela en cachant à peine ses intentions. À peine caché aussi, la volonté, loin d'être réalisée, d'exploiter les ressources du sol vénézuélien, principalement le pétrole, mais aussi l'aluminium, selon des modalités favorables aux multinationales états-uniennes. Autrement dit, actuellement, l'exploitation du pétrole au Venezuela ne génère pas de profits privés et cela ne convient pas du tout aux oligarques de l'entourage de Trump. Et ça fait longtemps que ça ne convient pas aux oligarques. Il faut dire que ces entreprises, au moment de l'élection d'Hugo Chavez en 1998, avaient dû quitter le territoire suite à la nationalisation de l'industrie pétrolière. On va voir plus précisément comment ça s'est fait, ça ne s'est pas fait d'un coup. Je vous rassure, par contre, pour ces entreprises, elles avaient été généreusement dédommagées. On leur a acheté, il n'y a pas eu de violence. Hugo Chavez leur a racheté les actions qu'elles avaient sur l'exploitation des ressources et sur certains services publics comme l'électricité, mais on va y revenir. Les misérables donc et grossières tentatives de faire passer cette agression meurtrière du 3 janvier pour une lutte contre le narcotrafic en provenance du Venezuela méritent donc non seulement seulement notre mépris quand on sait que le Venezuela n'est pas un producteur de cocaïne, contrairement à la Colombie ou au Pérou par exemple, et que seulement 5% de la cocaïne vendue aux États-Unis transite par le Venezuela. Et ce, même les journalistes de cour et de propagande le reconnaissent. Ces chiffres viennent de l'ONUDC, c'est l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Donc c'est pas non plus des marxistes, quoi. Maintenant qu'on a balayé brièvement quelques éléments de langage et mensonges repris par une large partie de la presse française, on va revenir rapidement sur les trois dernières décennies de l'histoire du Venezuela. Nous sommes donc en 1989. Et le président du Venezuela de cette époque, Carlos Andrés Pérez, sur une idée brillante du FMI, Fonds monétaire international, annonce une série de réformes néolibérales de privatisation des services publics, accompagnée d'une déréglementation des prix des biens de consommation courante, dont l'augmentation de 30% du prix des transports en commun et de 83% du prix du carburant, entre autres. Ces mesures antisociales qui rendent le coût de la vie exorbitant pour les plus pauvres provoquent le mécontentement général et à l'initiative notamment des étudiants de Caracas, la capitale du Venezuela, c'est toute la capitale qui se révolte le 27 février. Les gens se ruent sur les épiceries et s'emparent de denrées alimentaires vouées à devenir inaccessibles à cause de la thérapie de choc du gouvernement. On appellera cet événement le Caracaso. C'est alors que le gouvernement de Carlos Andrés Pérez déclare l'état d'urgence et place Caracas sous la loi martiale. Autrement dit, c'est un boulevard qui est ouvert pour une répression sanglante des manifestations. Dans les jours qui suivent la révolte, les droits constitutionnels sont suspendus par l'Assemblée et l'armée se livre à des représailles et à des exécutions ciblées sur les meneurs du mouvement. Ce seront plus de 3000 morts qui finiront par être recensés par certains observateurs après les événements de février. Il y a des charniers qui ont été découverts. Donc l'événement traumatisant pour le peuple qui s'est senti trahi par les institutions politiques puis par l'institution militaire à cause de la répression est devenu une date symbolique. 3 ans plus tard, en 1992, un militaire de 38 ans du nom de Hugo Chavez, chef d'une faction socialiste, d'affiliation socialiste de l'armée qui est nommée le MBR 200, Et oui, il y a des gens de gauche dans l'armée au Venezuela. Il invoque la mémoire collective encore vive du Caracaso, lors duquel il aurait refusé de réprimer la population. Bon, ça, c'est lui qui le dit. On ne sait pas s'il avait participé en 89 à la répression ou pas. En tout cas, il est en colère contre les dirigeants d'avoir ordonné à l'armée de tirer sur le peuple. C'est au nom de cette rébellion, au nom de la rancœur des Vénézuéliens contre le pouvoir, qu'il tente un coup d'État contre Andrés Pérez. Le coup d'État échoue et Chavez est emprisonné. Il sera libéré 2 ans plus tard, au moment de l'élection de Rafael Caldera, bon, je le dis avec un accent maintenant, à la présidence, grâce notamment à la popularité acquise lors de la tentative de coup d'État. Oui, au moment du coup d'État, déjà Hugo Chavez était vu comme un sauveur du peuple, un représentant du peuple, et il a acquis une popularité à ce moment-là. Et cette popularité et cette image de défenseur du peuple lui permettront de se faire élire lui-même président en 1998 avec 56,2% des voix. C'est sous la bannière du parti MVR, Movimiento Quinta República, à la tête d'une coalition de gauche, qu'il gagne ses élections. Ce sont des élections dont la plupart des observateurs, notamment peu sympathisants socialistes, diront qu'elles n'ont pas été truquées. Au moment de sa prise de pouvoir, le Venezuela, en proie au néolibéralisme et dont les ressources vont enrichir des actionnaires étrangers, souffre d'un taux de pauvreté de 80% et d'un taux de chômage à 18%, sans doute les bienfaits de la dérégulation des marchés et des plans d'ajustement structurel du FMI. Les plans d'ajustement structurel, je vais vous faire un petit aparté quand même là-dessus. C'est le FMI qui, tel une banque, prête à un État et en retour lui demande de faire tout un tas de concessions, notamment sur ses politiques sociales. Enfin, surtout sur ses politiques sociales. En gros, l'argent qui est utilisé pour rendre accessible la santé, l'éducation, pour sortir les gens de la pauvreté, ne peut plus l'être parce que le FMI demande que le prêt soit remboursé avec des intérêts et l'argent qui pourrait être utilisé pour des politiques sociales va pour rembourser, pour payer les intérêts d'un prêt. Voilà, c'est ça le FMI. Donc ce qu'il est impossible de nier, c'est que la présidence de Chavez a marqué une réelle rupture dans les structures politiques du Venezuela. Donc je rappelle, présidence de 1998 à 2013. Donc de quelle façon est-ce qu'elle a marqué l'histoire du pays et ses structures politiques? Là, on va présenter le modèle vénézuélien qui agace tant les États-Unis depuis qu'il a été instauré. Mais d'abord, pour digérer un peu tout ça, on va s'écouter un premier morceau de musique.
Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable. O por lo menos querible, besable. Amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.
Voilà, vous êtes de retour sur Le Sens de l'Actu, émission de décryptage de l'actu politique et critique. On parle aujourd'hui donc du Venezuela et je dédie ce morceau de Silvio Rodriguez qui s'appelle Canción del Elegido aux environ 80 morts de l'attaque états-unienne sur le Venezuela, dont 32 Cubains. Voilà, c'est une chose qui a été complètement niée par certains journalistes qui est inadmissible selon moi. Donc, on en était au début de la présidence de Chavez quand il a été élu en 98. Donc en 99, Chavez présente rapidement un projet de nouvelle constitution pour le pays. La définition donc d'une constitution, c'est une loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un organisme, généralement d'un État ou d'un ensemble d'États. Ça, c'est la définition qu'on trouve sur Wikipédia. Et en gros, c'est la loi qui est au-dessus de toutes les autres lois qui détermine donc énormément de choses. Donc cette constitution proposée par Chavez est soumise à référendum et elle est approuvée par le vote et elle devient la nouvelle constitution du pays, une des plus longues du monde avec 350 pages. Bien qu'elle soit accompagnée de passages en force institutionnels vis-à-vis de l'Assemblée et d'une partie du pouvoir judiciaire, la nouvelle constitution est approuvée par le peuple vénézuélien. Dès l'année 2001, le bilan de Chavez est, malgré les tentatives de discrédit de la presse occidentale, plutôt encourageant. La mortalité infantile est en baisse, l'éducation est gratuite jusqu'à l'université et un système de soins gratuits a été mis en place. Même les indicateurs économiques traditionnels qu'on prend trop souvent comme référence absolue parce qu'ils ne sont pas vraiment des révélateurs du bonheur d'une population, ces indicateurs sont stables. La croissance est à 4% et l'inflation est à son niveau le plus bas depuis 1986. La mesure phare de Chavez, celle qui a mis en rogne l'oligarchie états-unienne, c'est la nationalisation, bien sûr, de l'industrie pétrolière. Ça paraît peut-être flou, la nationalisation d'une industrie ou d'un service qui était dans le domaine du privé. On se demande sur quoi ça a un impact, mais pourtant, chaque fois qu'un pan de l'activité humaine passe ou repasse dans le domaine public, c'est une petite révolution. Cette activité est soustraite au profit, sa vocation n'est plus de générer des excédents qui finiront dans les poches des actionnaires. Sa vocation, désormais, est de fonctionner pour les besoins d'une population. Et croyez-moi, quand on anéantit les profits, ça change beaucoup de choses. On fera une spéciale sur les profits d'ici cet été, promis. Donc, en tout cas, au Venezuela de Chavez, les revenus du pétrole servent désormais à financer des politiques sociales et pas à enrichir des capitalistes. Et ça, c'est un fait, hein. Ça paraît un peu partial, mais voilà. Au fait, un capitaliste, c'est pas quelqu'un qui a un compte en banque et un smartphone. C'est quelqu'un qui tire des revenus du travail des autres parce qu'il est propriétaire d'un outil de travail. C'est pas une personne qui s'accommode du système capitaliste comme vous et moi. En avril 2022, à l'appel du patronat, il y a une tentative de lancer une grève générale et des manifestations anti-Chavez sont organisées. Le 9 avril, des officiers putschistes emprisonnent Chavez dans une base militaire et Pedro Carmona, un oligarque président de la Fédération des Chambres de Commerce, s'autoproclame président intérimaire. Ce sera le gouvernement le plus éphémère de l'histoire du pays, puisque grâce au soutien de la population et d'une partie de l'armée, Chavez est libéré et reconduit au pouvoir 2 jours plus tard. Les années suivantes seront mouvementées et il s'en passera des choses jusqu'en 2013, année de la mort de Chavez et de sa succession par Nicolas Maduro. Sa présidence est marquée donc par les missions bolivariennes, sorte d'opérations humanitaires et sociales, qui impliquent aussi l'armée, mais pour des opérations sociales, pour remédier à l'analphabétisme, à la malnutrition ou encore au mal logement. Il y a eu énormément de ces missions. En 2007, le Venezuela se retire du Fonds monétaire international dont on a parlé et de la Banque mondiale. Chavez renationalise aussi les compagnies d'électricité et de téléphone en les rachetant à leurs actionnaires privés. L'exploitation du pétrole, ressource fossile dont l'extraction et la transformation ont des effets considérables sur l'environnement, hein. On est un peu écolo ici aussi, donc on ne va pas le nier. Elle a été sans conteste le carburant qui a permis l'établissement du nouveau modèle vénézuélien, donc ça pose tout un tas de questions. Mais pourtant, le gouvernement Chavez a aussi su mettre en place des réglementations en faveur de la protection de l'environnement, comme la reconnaissance d'immenses territoires indigènes, les préservant de la privatisation et donc de l'exploitation, et l'interdiction de la pêche industrielle dans les eaux vénézuéliennes. Après, bien sûr, il y a des territoires qui ont été voués à l'exploitation pétrolière et ça ne s'est pas forcément bien passé sur le plan environnemental, forcément. La présidence de Chavez est placée sous le signe d'une grande défiance envers les États-Unis et d'une émancipation de fait. Plus précisément, le Venezuela de la Révolution bolivarienne, c'est le nom un peu du nouveau régime au Venezuela, a empêché que des pans entiers de l'économie nationale génèrent du profit pour des actionnaires et des prêteurs basés aux États-Unis. Par exemple, le remboursement anticipé des prêts du FMI a privé ce dernier d'une grande partie des intérêts qu'il avait l'intention de grappiller aux dépens des travailleurs vénézuéliens. Parce que c'est toujours les travailleurs hein, d'un pays qui payent une dette qu'a contractée ce pays. On touche du doigt donc la réponse à notre question de départ. En quoi le Venezuela de la révolution bolivarienne a déclenché la colère de l'impérialisme nord-américain qui s'est soldé tout récemment par la décapitation du gouvernement de Maduro ? Par son enlèvement. Ce n'est pas à cause de son autoritarisme, qui est peut-être réel, enfin qui est réel, ou des craintes en partie légitimes de voir le pouvoir présidentiel s'étendre démesurément. Je vous ferai un jour la liste des dictatures qui ont été très activement soutenues par les États-Unis et de leurs atteintes aux droits de l'homme. Il va falloir s'accrocher très très fort. C'est à cause plutôt de ce qui est considéré dans le capitalisme néolibéral comme l'affront ultime. Quand la collectivité empêche des acteurs privés de dégager des profits et de s'enrichir par le travail d'autrui, en bousillant au passage tout ce qui fait qu'un service public fonctionne, qu'une industrie respecte des limites environnementales ou qu'une activité réponde à des besoins exprimés démocratiquement par les gens. C'est dans ce monde voué au profit que des tribunaux d'arbitrage, par exemple, permettent à des multinationales de porter plainte contre des États et d'obtenir des millions de dollars de dédommagement pour avoir était empêché de faire du profit. C'est une parenthèse, mais c'est très en lien avec tout ça. C'est donc le manque à gagner du capital, couplé aux besoins gargantuesques en pétrole du mode de vie nord-américain, qui mène aux attaques meurtrières, comme celle sur le Venezuela de début janvier, ou sur l'Irak en 2003, ou encore un tas d'autres. On va digérer un peu ça, et sans transition, je vous laisse écouter un deuxième morceau de musique.
We'll be right back.
Alors, vous êtes de retour sur Radio Escapade. On vient de s'écouter le Panda Dub, la deuxième lune. C'est un petit morceau de dub que j'aime bien. Nous sommes sur l'émission Le Sens de l'Actu, émission de décryptage critique de l'actualité. On parle aujourd'hui, c'est une spéciale Venezuela, sur ce qui s'est passé, une remise en contexte. Donc, on en était à la fin de la présidence de Chavez. On est passé très très vite. Mais en 2013, Chavez meurt d'un cancer et Nicolas Maduro, son vice-président, lui succède. Il était donc son vice-président, donc se place dans la continuité du chavisme. Et il fut élu, encore une fois, au suffrage universel. L'opposition d'extrême droite et les États-Unis avaient contesté cette élection, ce qui suffit à nos éditorialistes français à répéter qu'il était un dictateur illégitime. Mais si vous me trouvez une enquête sérieuse révélant une fraude électorale, je suis preneur. En réalité, il n'y a rien de très sérieux de ce que j'ai pu voir là-dessus. Donc on a affaire à un président élu. Voilà. Et pas un dictateur narcotrafiquant comme on a entendu sur CNews par exemple. Donc à l'élection de Maduro en 2013, les États-Unis sentent le vent tourner. Ils pressentent qu'il n'aura pas la même popularité ni le même aplomb que Chavez et les sanctions redoublent d'intensité. C'est en 2015, sous la présidence de Saint Barack Obama, que les États-Unis déclarent le Venezuela comme étant une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique extérieure des États-Unis. Donc voilà, première armée du monde menacée par le petit Venezuela. Étonnant. Je cite un article du Monde Diplo datant d'avril 2022 dans lequel il y a les sanctions contre le Venezuela, les sanctions occidentales, donc américaines mais aussi européennes, qui sont listées. Vous pouvez le trouver sur le site du Monde Diplomatique. Donc, ouvrez les guillemets, embargo contre la compagnie pétrolière publique PDVSA, Petroleos de Venezuela, SA, et toutes ses filiales, saisie des avoirs vénézuéliens à l'étranger, comme ceux de Citgo, la filiale de PDVSA aux États-Unis, d'une valeur de 7 milliards de dollars. Poursuite contre toutes les entreprises étrangères commerçant avec ces entreprises vénézuéliennes, etc. En fait, c'est vraiment un assassinat économique du pays. C'est tout un tas de produits qui vont être inaccessibles à la population, des pénuries en pagaille. En gros, c'est vraiment une déstabilisation organisée du Venezuela. Donc, Donald Trump, dès son premier mandat en 2016, je ne sais plus si c'est 2016 ou 2017 qu'il a été élu, mais il a été très offensif. Et récemment, il a carrément donc saisi des pétroliers comme un gangster décomplexé, comme vous avez pu le voir. Mais les démocrates n'ont pas été en reste. C'est par exemple l'administration Biden qui a promis des récompenses pour le kidnapping, oui oui encore, de plusieurs dirigeants vénézuéliens. Et ça c'était à la fin de son mandat. Voilà, tout ça pour dire que c'est une continuité qui est en train de devenir bien plus voyante et agressive avec Trump, mais c'est une continuité de l'impérialisme américain et des tentatives de déstabilisation. Ok, comme d'habitude, comme ils l'ont fait avec Cuba, pardon, les USA ne se contentent pas de sanctionner le pays rebelle, mais ils sanctionnent ou ils tentent de le faire les autres États qui continuent à commercer avec lui. Par exemple, le Venezuela continuait à s'en sortir pendant toutes ces années de chavisme en vendant du pétrole à Cuba, à l'Iran, à la Russie également. Donc des régimes qu'on peut critiquer, mais voilà, c'est un gouvernement rebelle à l'impérialisme américain qui a trouvé d'autres débouchés commerciaux, ce qui est quand même assez logique. On entend souvent des éditorialistes en France notamment désigner Maduro comme un dictateur, mais on les entend peu étayer leurs propos, dire pourquoi, en quoi c'est un dictateur. Il y a certainement des arguments entendables, mais on ne les entend pas. Je ne veux surtout pas angéliser ce dernier dans un manichéisme imbécile. Mais je voudrais aller un petit peu à l'encontre de ce qu'on peut beaucoup entendre et qui justifie une agression américaine, états-unienne. On peut nier l'adversité dans laquelle tente de se maintenir un modèle social, politique et économique quand le pays qui le défend, donc le Venezuela en l'occurrence, se retrouve asphyxié économiquement. Oui, le Venezuela de Maduro a vu la criminalité augmenter. Oui, la population a dû subir des pénuries dramatiques et la mortalité infantile a augmenté. Mais il serait extrêmement malhonnête de minimiser le rôle des sanctions états-uniennes et européennes sur cette situation. Maduro a commencé à renoncer au chavisme en 2018 afin d'assouplir les sanctions. Il libéralise l'économie et passe des contrats confidentiels avec des investisseurs privés en contournant la constitution qui interdit que des investisseurs privés deviennent actionnaires majoritaires d'une compagnie mixte. En gros, voilà, il passe des contrats et il est en train d'abandonner un petit peu la politique de renationalisation de certaines industries, certaines activités qu'avait lancé Chavez. Cela relance la croissance, mais la pauvreté ne diminue pas d'un pouce la pauvreté. Cette libéralisation n'aura manifestement pas suffi aux USA de Donald Trump, qui demande un accès privilégié aux ressources vénézuéliennes et une ouverture totale aux capitaux privés, comme dans les bonnes vieilles dictatures militaires de Pinochet ou Videla. Il y a eu récemment une rencontre entre Donald Trump, dont on a entendu un peu parler, entre Trump et tout un tas d'industriels, dont les industriels du pétrole, qui se frottent les mains et qui se préparent déjà à faire main basse sur les ressources du Venezuela. Mais ils ne sont pas encore arrivés à leur fin. C'est ainsi qu'on en vient à assister stupéfait au kidnapping d'un président par une armée étrangère. Comment est-ce qu'on en vient à avoir un président français qui se couche plus bas que terre et se réjouit de cette agression? Comment on en vient à avoir toute une partie de l'establishment journalistique émerveillé par cette brillante opération, entre guillemets, avec certains personnages qui vont jusqu'à nier les dizaines de morts que l'attaque a causées? Ça, eh bien, c'est une autre histoire. C'est des questions auxquelles on n'a pas le temps de répondre aujourd'hui. C'est l'histoire de la soumission française et européenne aux intérêts états-uniens. Mais voilà, on n'a pas le temps d'en parler. Pour les sources donc, sur le Venezuela, pour approfondir, mettre en perspective avec l'histoire récente et moins récente du pays, je vous recommande plus que jamais de vous orienter vers des médias indépendants critiques du néolibéralisme. Pour le détail de l'intervention et de ses motivations économiques, il y a les deux vidéos donc, de la chaîne Limite dont j'ai parlé en début d'émission. Il y a aussi tous les entretiens que vous pourrez trouver sur YouTube, par exemple, avec Maurice Lemoine, journaliste et reporter et grand connaisseur du sujet, notamment sur la chaîne Élucide, un long entretien qui doit faire une heure. Très intéressant. Personnellement, j'ai commandé deux de ses ouvrages, Chavez Presidente et Les enfants cachés du général Pinochet, précis de coup d'état moderne et autres tentatives de déstabilisation. Il y a aussi tous les articles qu'on peut trouver notamment dans le monde diplomatique de Christophe Ventura, qui est un autre spécialiste, qui n'est pas pro-états-unien de l'Amérique latine. Donc des articles qu'on trouve dans le monde diplomatique, notamment qu'on peut trouver certains en ligne. Il y a aussi un dossier ce mois-ci dans l'UMA Magazine qui titre « La mafia impérialiste » avec une grosse tête de Trump et qui détaille un petit peu l'opération, qui parle aussi d'autres déstabilisations et soutien à des dictatures et ingérences américaines en Amérique latine. Et il y a aussi un article en une du Monde Diplo de janvier qui s'appelle Trump, pirate des Caraïbes, qui parle notamment de ce qui s'est passé, je crois, au Honduras, avec des électeurs honduriens qui ont reçu des messages directement de l'administration américaine leur disant que s'ils ne votaient pas pour le candidat soutenu par les États-Unis, ils ne pourraient plus recevoir de l'argent de leurs proches qui travaillent aux États-Unis. Donc en gros, c'est une pure ingérence. Voilà. Pour approfondir encore plus le sujet sur vraiment l'impérialisme américain et aller beaucoup plus loin là-dedans, il y a un livre que j'avais lu déjà il y a quelques années et qui est vraiment une référence. C'est « Les veines ouvertes de l'Amérique latine » d'Eduardo Galeano. Il y a aussi « La stratégie du choc » de Naomi Klein. Vraiment édifiant que je suis en train de lire, qui détaille beaucoup le coup d'état de Pinochet, ses liens très très étroits avec l'administration américaine dans les années 70, le soutien des Américains à toutes les dictatures militaires de l'époque années 70-80, avec l'instauration mondiale du néolibéralisme. Donc Naomi Klein, la stratégie du choc. Il y a aussi la série de podcasts qu'on m'a conseillé sur l'impérialisme américain, sur France Culture, que vous pouvez trouver sur l'appli France Culture, Radio France, qui rembobine l'histoire jusqu'à 1923 avec l'apparition de la fameuse doctrine Monroe. C'est en plusieurs épisodes d'environ 15 minutes. C'est donc assez digeste et bien détaillé. On va faire maintenant, je vais vous donner des petites nouvelles des sujets précédents qu'il y avait eu dans le sens de l'actu quand même, parce que c'est l'actualité continue. Voilà, donc en septembre, on avait parlé de l'A69, on avait fait une spéciale, donc je voulais vous donner un peu des nouvelles. Il y a Reporter, donc ce média écolo en ligne, qui, fidèle à sa mission, nous informe sur le dossier A69. Le 30 décembre dernier, alors que le chantier se poursuivait jour et nuit, le chantier de l'autoroute, la cour administrative d'appel de Toulouse a autorisé la réalisation de l'autoroute, revenant complètement sur la décision de justice du 27 février 2025. De toute façon, les travaux, comme je disais, étaient en train de continuer jour et nuit, causant beaucoup, beaucoup de nuisances grâce au sursis à exécution, c'est-à-dire au fait que, en fait, alors que la décision n'était pas rendue, les entreprises avaient le droit de continuer les travaux. C'est une grande bizarrerie de notre système judiciaire français. Donc, mais les activistes, malgré cette décision de justice, les activistes anti-autoroute n'ont pas dit leur dernier mot et demandent un pourvoi en cassation. C'est une espèce de recours pour continuer à lutter sur le plan légaliste. Plus récemment, le 12 janvier, une petite victoire a eu lieu pour les anti-autoroutes. Le juge des libertés et de la détention a ordonné l'arrêt des travaux sur 46 sites sur lesquels l'emprise du chantier dépassait de l'emprise initiale. Les constructeurs ont été sommés de libérer les parcelles en question sous 4 jours, sous peine de 20 000 euros d'amende par jour de retard. Donc le combat juridique continue et les militants du collectif La Voie est libre préviennent, je cite, qu'ils continueront à dénoncer ce chantier inutile, destructeur et antisocial jusqu'à son annulation. Nous n'attendrons pas de filmer une autoroute vide pour dénoncer ce scandale. Donc beaucoup plus d'infos dans le numéro de septembre où on avait eu un entretien avec une personne membre du collectif La Voie est libre. Donc Gaza et Palestine, ça c'est en novembre qu'on avait fait une spéciale sur la Palestine. On avait invité Salima d'une association des Cévennes pour la solidarité avec la Palestine qui nous avait parlé en détail de la situation là-bas. Un article dans l'UMA Magazine fait le point sur la situation actuelle à Gaza. Le gouvernement de Netanyahou est en train d'essayer d'expulser 37 ONG de Gaza en prétextant des liens avec le Hamas. L'Israël continue d'affamer la population et de la priver de l'aide humanitaire. Alors que l'accord de cessez-le-feu du 10 octobre prévoyait l'entrée de 600 camions par jour sur le territoire, seuls 100 à 300 véhicules sont effectivement autorisés à entrer, en moyenne, ce qui garantit une lente agonie des Gazaouis, pendant que d'autres continuent à mourir dans les bombardements, qui n'ont pas cessé et ont tué 393 personnes depuis le prétendu cessez-le-feu. N'oublions pas ce génocide à l'heure où l'actualité brûlante risque de détourner notre attention. Donc c'est tout pour aujourd'hui dans le sens de l'actu. Je vous invite chaleureusement à continuer à suivre l'actualité en essayant d'aller plus loin que les gros titres. Merci donc aux journalistes d'enquête et de terrain et aux journalistes indépendants dont le travail d'utilité publique alimente mon travail bénévole, à moi qui ne suis que citoyen et pas journaliste, et au mois prochain, donc troisième lundi du mois, je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais j'essaierai de faire du travail sérieux et d'avoir un intervenant parce que ça aère un petit peu les informations. Allez, à bientôt dans le sens de l'actu.